Bonjour, Raymond Richard au micro. Bien, nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire. Et la semaine dernière, on a évoqué dans cette même émission la question des migrations et notamment le cas de New York, qui était une ville qui accueillait particulièrement. Mais en France aussi, il y a des villes qui accueillent particulièrement. Et en relisant l'article de Faim et Développement Magazine du mois de mai 2018, c'est le cas notamment de Briançon. Briançon, c'est dans les Hautes-Alpes, à 15 km de la frontière italienne. Et tout près de Briançon, eh bien, il y a les cols qui sont à 1700-1800 mètres d'altitude. Et depuis septembre 2017, les médias ont évoqué le passage par les Alpes. C'est vrai qu'à Briançon, les personnes étaient un peu bouleversées lorsque arrivaient ces migrants. Et l'un d'entre eux nous dit, je cite le journal, « Je préfère être inculpé pour avoir transporté des étrangers que pour non-assistance à personne en danger. Dans nos montagnes, il n'y a pas de passeurs, mais il y a des citoyens qui refusent de laisser mourir des gens dans la neige. » Alors comment ils se sont organisés à Briançon ? Eh bien, il y a eu une structure d'accueil d'urgence dans une ancienne caserne, la création d'une association, Coordination Réfugiés Solidaires. Elle s'engage, prend en charge les migrants et elle a été chargée de gérer un centre d'accueil et d'orientation et puis un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, au point même qu'à un moment donné, des migrants de Calais y ont été accueillis. Et la population s'est posée un certain nombre de questions devant ces réalités. Elle a découvert les accords de Dublin. Les accords de Dublin, vous savez, ce sont les dispositions qui font que un demandeur d'asile qui arrive dans un pays d'Europe, s'il vient par la mer Méditerranée, eh bien il arrive en Espagne, il peut arriver en France, il arrive aussi en Italie, à Lampedusa par exemple, et c'est dans ce pays qu'ils doivent déposer leur demande d'asile. Alors, c'est vrai que c'est difficile lorsqu'on a des populations qui arrivent en France et puis on sait qu'elles sont passées par l'Italie. Eh bien, dans certains cas, on les met dans un avion direction de l'Italie. Ça n'est pas quand même pas très simple. Et puis, dans la mesure où l'Europe se constitue, on voit l'ambiguïté de ce dispositif. Alors, cela m'a amené à me poser la question, mais enfin, combien sont-ils ? En fait, en France, sur les 65 millions d'habitants, il y a en moyenne 65 000 personnes qui sont accueillies par an. Disons 1 pour 1000, donc on est loin de l'invasion. Et au niveau des personnes étrangères présentes, la France se classe au 6e rang mondial au niveau de l'immigration, derrière États-Unis, Russie, Allemagne, Arabie Saoudite, Canada, mais devant le Royaume-Uni et l'Espagne. Et puis il faut se dire que derrière ces chiffres, l'immigré est d'abord une personne, et pas simplement une personne qu'on comptabilise en disant « il est migrant ». Alors, il est important effectivement de changer de regard, c'est ce que Mgr Jachier nous disait dans l'émission de la semaine dernière. Mais regardons un peu comment ça se passe pour les jeunes migrants. Et là, on a dans Faim et Développement Magazine un témoignage d'une famille qui accueille des enfants donné par l'aide sociale à l'enfance. Alors voilà son témoignage. Fin 2016, Sylvie, assistante familiale, hésite. Mes deux plus jeunes ados sont encore à la maison. J'ai peur de mettre ma famille en danger. Elle dit, mes craintes sont alimentées par les informations entendues à la radio. Alors je me suis dit, bon, tout de même, on va l'accueillir, ce petit. Donc elle reçoit un jeune Malien de 15 ans, en urgence. Et elle dit, au début, il ne dormait pas, ne mangeait pas beaucoup. Par chance, il allait dans le même collège que mon fils, donc il a compris que l'école était une chance pour lui, et il avait 15 ans, donc étant pris en charge à l'école, il avait des chances d'être régularisé à sa majorité. Mais ça n'est pas le cas pour tous. Alors, que dire aux migrants qui lui sont confiés ? Et elle nous dit qu'un autre jeune arrivé à plus de 16 ans est inquiet. Alors je lui explique que s'il doit retourner au Mali, c'est une chance d'avoir suivi une formation d'agent de restauration à Annonay, parce qu'il pourra trouver un vrai travail en rentrant au pays. Alors tous les deux sont pensionnaires, le plus jeune suit un CAP en bâtiment à Romans, il rentre chez Sylvie tous les week-ends, et puis elle dit « ils s'intéressent à tout, ils sont serviables ». On sent qu'ils ont des références sociales solides. Ils ne posent pas de problème relationnel. Et alors, évidemment, la culture malienne est différente. Chez eux, au Mali, ce sont les adultes qui décident de tout. L'enfant dit toujours oui. La place de la femme aussi est différente. Mais ils ont du respect pour moi et mon mari, dit-elle. Et puis elle dit, à propos des différences religieuses, elles ne sont pas un obstacle, au contraire. Ça nous rapproche. Nous, les chrétiens, nous avons des valeurs communes avec les musulmans. La base essentielle, c'est le respect mutuel. Alors, après la pause musicale, allons voir ce que disent ces jeunes migrants, c'est-à-dire ceux qui ont été accueillis. Et on va le suivre dans sa traversée et son histoire. Mamadi, il a 16 ans et il est parti de Conakry parce que, dit-il, 4 ans plus tôt, ma maman est morte dans une manifestation et mon père est parti peu après. Je ne sais pas où il est. Alors, j'étais parmi les premiers à l'école, mais la personne qui me suivait, il dit ma marâtre, a voulu que j'arrête les cours pour travailler. Elle me frappait souvent. Un jour, elle m'a renversé de l'eau bouillante. Et le soir même, je suis partie. Alors, j'ai dormi dans une gare routière, j'ai lavé des voitures pour survivre. Et puis, un camionneur l'emmène jusqu'à Bamako. Un autre l'emmène jusqu'à la frontière mauritanienne. J'ai eu des ennuis. Je suis tombée sur un groupe de Touaregs. Ils voulaient que j'appelle en Guinée pour qu'on leur envoie de l'argent. Je leur ai dit que je n'avais plus personne. Mais ils ne me croyaient pas et m'ont gardé plusieurs semaines. Et puis, par chance, j'ai rencontré un homme qui parlait ma langue, le malinké. Alors, je suis allée jusqu'à Melilla. Et là, c'est le passage vers l'Espagne. Nous étions cachés dans la forêt, il faisait froid, il pleuvait. On a fabriqué des tentes avec des sacs plastiques. Pour se nourrir, on faisait les poubelles. Quelquefois, on nous donnait un peu. Et puis, on lui a expliqué, si les militaires t'attrapent, ils te frappent. Ils veulent du flouze ou ton téléphone. Et puis ils t'embarquent et te laissent à la frontière algérienne en plein désert. Alors il a vécu 6 mois dans la forêt. Et puis finalement, il est arrivé ici. L'autre, le deuxième, explique qu'il a eu de la chance parce qu'il a rencontré un passeur guinéen qui lui a dit « Tu me fais penser à mon petit frère resté au pays. Je vais te donner une chance pour que tu montes dans le Zodiac. » Le Zodiac, c'est le bateau pneumatique. On est parti à 23 heures. Avec les hommes, nous étions assis à l'extérieur. Les femmes étaient au milieu. J'avais peur. Au milieu de la nuit, un des boudins du Zodiac s'est dégonflé. Les vagues entrent dans le bateau. Je suis tombée à l'eau, je me suis accrochée aux cordes. Heureusement, un homme m'a rattrapée. Mais mon ami est mort, emporté par les vagues. Au matin, on a été récupérés par des militaires espagnols, fut accueilli par la Croix-Rouge. On nous a donné des couvertures de survie, de la nourriture, des vêtements, et puis un peu d'argent. Alors il nous dit, j'ai pris le train pour le Real de Madrid, parce que, vu d'Afrique, les villes européennes sont connues surtout par leur équipe de football. Et puis, il a quitté le foyer où il était accueilli comme réfugié pour aller à Annonay, dans une des 20 familles, notamment celle qu'il a accueillie. Alors on voit que le passage et l'entrée en France n'est pas un long fleuve tranquille. Alors on peut se poser la question aussi, et qu'est-ce qui se passe après? Quel est leur statut? Quelles sont leurs ressources? Pour ça, il faut aller voir les dispositions légales. Alors d'abord, on peut percevoir que les législations changent, que l'accueil des migrants n'est pas extrêmement facile, et que, après l'arrivée, en tout cas pour les jeunes, ils sont obligatoirement scolarisés. Jusqu'à 18 ans, ils bénéficient d'une certaine protection. Et on le voit pour ces migrants accueillis par Sylvie en Ardèche, avec l'un d'entre eux qui va être régularisé vu son âge, et puis l'autre qui sûrement retournera. Mais le dispositif d'hébergement et des migrants, c'est le bonheur des technocrates et le cauchemar des citoyens. Ça, c'est le titre du texte de Fin et Développement Magazine que je vous propose de parcourir avec vous. Parce que la politique migratoire est marquée, disons, par une constante, plus de contrôle, ce qu'on comprend, parce qu'on évoque, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, tout à l'heure, j'ai rappelé qu'en fait, la misère du monde, c'était 1 pour 1000, en gros. Mais c'est vrai aussi que dans les centres d'accueil et d'orientation mis en place après l'évacuation de la jungle de Calais en 2016, on contrôle les populations, notamment. Celles qui sont sous la procédure Dublin peuvent être transportées vers les pays qui les ont accueillis. Quant aux autres, la question se pose, voyons, lorsque les demandes d'asile sont refusées, qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'ai trouvé tout à fait intéressant de voir que l'allongement de la durée de rétention qui est prévu par la prochaine loi ne va pas forcément régler les problèmes, parce que lorsqu'il y a reconduite à la frontière ou reconduite dans le pays d'origine, eh bien il faut aussi qu'il y ait un visa d'accueil pour entrer dans ce pays d'origine. On ne peut pas repartir comme ça. Et c'est le défenseur des droits. Donc, ça n'est pas simplement une association qui est favorable aux migrants. Non, non. Le défenseur des droits nous dit « La durée de rétention à 90 jours est excessive au regard de l'importance du droit fondamental en jeu, à savoir la liberté individuelle et la sûreté. Et d'autre part, c'est peu efficace. » Alors, on peut se poser la question, et ce sera pour la fin de l'émission, mais en fait, est-ce qu'il y a des expulsions ? Eh bien, en 2016, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont expulsé, pour l'Allemagne, près de 27 000 personnes, pour le Royaume-Uni, près de 11 000 personnes, la France, 37 362 personnes. C'est-à-dire à peu près, sur les 370 000 qui sont arrivés en 2017, 10%. Les départs s'organisent à partir des centres de rétention administrative, mais au-delà de 12 jours de rétention, c'est très difficile parce que ça veut dire qu'on n'a pas obtenu de motif légitime pour l'éloignement, on n'a pas reçu de laissez-passer délivré par les pays d'origine. Donc difficile de renvoyer quelqu'un dans un pays qui ne veut pas le recevoir. Donc je vous propose de vous informer, bon, par Fin et Développement Magazine, l'occasion de vous abonner si vous n'y êtes pas, mais aussi par d'autres canaux, parce que souvent, on fait de la France une passoire, ce n'est pas le cas. On fait des migrants et de la migration une invasion, ce n'est pas le cas non plus. Et rappelons-nous, ce sont des hommes, et pour les chrétiens, c'est Dieu qui nous demande, et qui demande à Abraham, et donc à nous, toi aussi, tu étais un migrant, un araméen errant, avec lequel il a fait alliance. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous, au revoir.